101.5 FM.
You out of earth.
Sur Radio G, tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est l'heure de Génération Sport. Bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Sport, votre émission sportive angevine de Radio G. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. À mes côtés aujourd'hui, toujours la même équipe, et elle sera même un petit peu plus garnie dans la fin d'émission. On vous en dira plus tout à l'heure, mais en tout cas, dans le studio, il y a bien mes deux acolytes, Faustin à ma gauche. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, ça va et toi?
Parfaitement bien. Je vois que t'as un petit bandage au niveau du pouce. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est une petite entorse, c'est que dalle à l'entraînement hier.
Aïe aïe aïe. J'espère que tu pourras jouer le prochain match.
Ouais, normalement, sans problème.
Et d'ailleurs, ce week-end, ça a gagné?
À ton avis.
Encore? Mais non, mais vous êtes à combien? Vous êtes à 100% de victoire?
Bah ouais, là on est en 17-0, je crois.
17? Ah ouais, non mais ça c'est impressionnant. Vous n'êtes pas dans la bonne catégorie ou quoi?
Ah ouais, on s'est pas qualifié en région au début de l'année.
Ok.
on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes finalement.
D'accord, ok. C'est pour ça que vous êtes.
On est monté en région en deuxième phase, mais on domine toujours en région. Du coup,
ça
la
marche.
Ce week-end, c'est le gros match qu'il faut gagner.
Face au deuxième.
Face au deuxième, voilà, on les a battus de 20 points, un truc comme ça à l'aller.
Ok.
Et aussi, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à mon grand-père qui fête ses 79 ans aujourd'hui. Voilà.
Ok, comment il s'appelle ?
Claude.
Eh ben Claude, bon anniversaire à toi. Cédric est à ma droite. Salut Cédric, comment ça va ?
Eh ben écoute, ça va plutôt bien.
La forme, t'as passé un bon week-end ?
Ouais, week-end festif entre la victoire du 15 de France, j'allais dire.
Aussi.
Non, il y avait plus de match, c'était avant. Ouais. En tout cas, il y avait eu ça. Mais entre la Saint-Patrick, le 15 de France, petit week-end sympa niveau
des
sport,
manifs.
Les manifs, oui, c'était un sport comme un autre.
Comme un autre, effectivement.
Ah, c'est bien pour peut-être trouver des petites perles sur du 100 mètres.
Oui, bah oui, pour
courir, la vitesse, voilà.
Pour courir, effectivement.
Non, mais ouais, c'est vrai qu'on a eu un bon week-end. Petit Grand Prix aussi de F1 qui était pas week-end, voilà.
Week-end de sport tranquille.
Voilà, c'est ça.
Sans prétention, mais il y avait des choses à dire. Et justement, on va en parler de toutes ces choses qui sont passées ce week-end, avec donc au programme de l'émission toute l'actualité locale, vous en avez l'habitude, les équipes classiques qu'on a l'habitude de suivre dans Génération Sport, évidemment le SCO Handball, les baskets, le basket avec donc l'UFAB, le AB Cholet. Un petit mot aussi des Ducs d'Angers, on l'a dit, ils se sont déjà qualifiés pour les demi-finales de Ligue Magnus, et on parlera surtout du fait que ce soir c'est le début de ces fameuses demi-finales. Et puis en international, on parlera de football évidemment avec la Ligue 1, mais surtout l'équipe de France, avec pas mal de choses à dire, et on parlera un peu de tennis. On va se projeter un peu sur Roland Garros qui arrive dans à peu près deux mois. De bon mois, donc voilà, avec Alcaraz qui est en pleine forme, Nadal qui sort du top 10, et voilà, on se demandera à quoi s'attendre sur Roland-Garros. Et puis voilà, comme tu l'as dit Cédric, on parle un petit peu de rugby, on parlera un petit peu de Formule 1, et puis surtout, justement, donc j'en parlais un peu en introduction, il y aura Max qui nous rejoindra après la pause musicale pour justement parler un petit peu de toute l'actualité sportive internationale. En attendant, on va parler sport local avec nos équipes angevines. On va commencer par le football et le SCO qui continue de battre des records dans le mauvais sens du terme avec cette 22e défaite de la saison et toujours 10 points au compteur après 28 journées. La dernière déconvenue en date remonte à samedi soir avec cette défaite 3-0 à Bollard contre Lens. Un but de Fofana, un doublé d'Openda et une attaque angevine muette ont provoqué un nouvel échec pour le SCO. Avec un calendrier dantesque pour la fin de saison, ces 10 dernières journées risquent d'être compliquées, mais vont permettre de trouver un nouveau coach notamment et peut-être insuffler un nouveau souffle au club pour l'année prochaine et la Ligue 2. On va rester dans le football avec le SO Cholet qui a gagné ce week-end en national contre Bastia Borgo 2-1. Ce déplacement victorieux en Corse leur permet de rester à la 7e place à 6 points de la seconde position. La montée est donc encore un peu lointaine pour le SOC, mais le maintien est bien engagé avec 7 points d'avance sur le premier non relégable Bourg-en-Bresse, 13e, car oui, cette année, 6 équipes seront reversées en National 2. Voilà, il y a quand même 6 équipes qui vont être reléguées, donc il faudra suivre ça pour le SOC qui est à la fois un peu intercalé entre les premières places et les places relégables alors qu'ils sont 7e au classement. Voilà pour ce petit point football, on verra si Cholet est capable de déjouer les pronostics pour peut-être s'inviter dans la course à la Ligue 2. On va passer maintenant au basket avec toi Faustin. On commence par quelle équipe ?
On va commencer par l'EAB.
L'EAB, ça marche.
L'EAB qui n'ont joué que un match cette semaine, et c'est malheureusement une défaite qu'ils ont subie de seulement un point. C'était à domicile, un point pris dans les toutes dernières secondes du match qui a littéralement climatisé la salle Jean Bouin. Voilà, donc une défaite 84-83 face à Évreux. Leur prochain match aura lieu vendredi contre Grise Souffel.
Ouais, ça, c'était franchement, ça devait pas être beau à voir ce panier derrière ce compte à domicile.
Quand tu vois ton équipe qui prend ça, ouais, ça fait mal.
Derrière, il y a plus rien à dire. Et si, petit point aussi, il y a également un joueur qui s'est blessé, je crois que c'est Florian Léopold, qui s'est blessé, il y a une déchirure osseuse, donc une blessure assez grave de plusieurs semaines. Il faut savoir que l'EAB va faire appel à un pigiste médical. Donc voilà, il va être remplacé donc pour cette fin de saison avec, on le sait, des playoffs. On enchaîne avec Cholet.
Avec Cholet, c'est parti. Les Choletais qui sortent victorieux des quarts de finale de Coupe d'Europe en s'imposant 83-79 lors du match retour contre le Boudivelnik de Kiev. Ils auront rendez-vous dès mercredi prochain pour affronter le BC Kalev, club estonien, donc en demi-finale de Coupe d'Europe. Ils ont joué un autre match, cette fois à l'Arena Loire de Trélazé, et ça a malheureusement été leur seul match du week-end, car ils se sont inclinés 85-79 contre l'Asvel pour le quart de finale de Coupe de France.
Et puis l'UFAB, on termine par l'UFAB.
Elles s'en sortent très bien cette semaine avec un match joué et une victoire à domicile contre Landerneau 99-74. Ce qui ne leur permet toujours pas de sortir du play-down, mais s'en rapproche de plus en plus de sortir du play-down, donc, car elles sont désormais à égalité avec Basketland, Rochefendé et Tarbes, qu'elles affronteront d'ailleurs ce week-end. En cas de victoire, elles sortiront définitivement du play-down si elles ne perdent pas par la suite, sachant qu'il reste plus que 5 matchs à jouer en saison régulière.
Et c'est donc 2 victoires de suite qui font énormément bien au classement à l'UFAB, qui aurait pu clairement se dire, qui aurait pu être en position délicate si elles n'avaient pas pu remporter ces 2 matchs. Et donc c'est une bonne chose. Et elles sont capables de potentiellement figurer même plus haut que là, seulement la 8e place.
Ouais, on l'espère.
On l'espère, on le souhaite, et puis on verra ça dans les prochaines semaines. On va passer maintenant au handball avec le SCO qui prend un peu plus la direction de la Pro League avec ce parcours idéal en National 1 Elite. Ce week-end, la bonne série angevine s'est poursuivie lors d'un déplacement à Hasbrouck. Malgré une entame de match timide, les hommes d'Issam Tej ont dominé le reste de la rencontre tranquillement pour décrocher leur 19e victoire en championnat. Avec 8 points d'avance sur son dauphin Annecy, le SCO va pouvoir assurer sa montée dans les semaines prochaines. Justement, la semaine prochaine, pas de match pour Angers puisque Vénissieux a fait forfait général. Et donc, rendez-vous dans 2 semaines pour voir le SCO se rapprocher du titre. Donc voilà, pour le prochaine journée.
Forfait dû à quoi?
Alors, c'est un forfait qui a été acté, je crois, de mémoire par la fédération française de handball. Je pense que ça doit être des difficultés économiques.
D'accord.
Je vais pas te mentir. Je connais pas plus le dossier que ça, mais je pense que ça doit être ça. Je crois que Vénissieux, par contre, était aussi en Pro League. Ça faisait partie des 2 relégués. Donc avec le SCO, et donc voilà, Vénissieux qui descend le club de la région lyonnaise. On va donc terminer l'actu locale avec les Ducs d'Angers. Voilà, ils étaient opposés aux Boxers de Bordeaux en quart de finale et ils ont validé leur ticket pour le dernier carré de la Ligue Magnus mardi soir à l'Ice Park. Avec ce sweep 4-0, comme on dit au basket, le niveau de jeu va s'élever pour les Angevins qui affrontent les Dragons de Rouen pour les demi-finales. D'ailleurs, le premier match de la confrontation a lieu ce soir à la patinoire rouennaise et il vient de commencer. Alors c'est vrai que tu nous feras un point évidemment sur le score pendant l'émission.
Mais il y a déjà...
Ah mince, il y a déjà un but.
Un but.
Dis-moi.
Pour Rouen, à la 4e minute.
Ok. Mais en tout cas... pour parler un peu plus généralement de la confrontation, comment tu sens cette demi? Alors pour nos auditeurs, il faut savoir que les Ducs pendant la saison régulière ont joué 4 fois les Dragons de Rouen et ils n'ont jamais réussi à les battre. Il y a eu 4 défaites, dont 2 en prolongation, mais à chaque fois c'était quand même un peu serré. Donc voilà, toi qu'est-ce que t'en penses sur cette confrontation?
Je dirais minimum, ça va jouer en 5 matchs.
Donc pas de sweep.
Non, je pense pas.
Tu vois mal ça.
Non, je pense que voilà, ça va sûrement, les 2 matchs à l'extérieur vont sûrement être compliqués.
Ouais.
On peut s'attendre à comme d'hab à avoir des gros scores aussi.
Ouais.
Et après, je pense qu'à domicile, on peut rééquilibrer les choses et après en fonction de où va jouer les matchs 5, 6 voire peut-être 7.
Ouais.
Ça peut voilà donner un avantage sûrement à une équipe.
Oui, forcément, jouer à domicile. On sait que l'Ice Park, ça joue plutôt en faveur généralement de...
Bah, en tout cas, l'année dernière, ça a bien porté chance.
Ouais, ouais clairement. Mais sinon, ouais... Tu les sens quand même. Faut savoir que je crois que c'est les mêmes demi-finales que l'année dernière.
C'est, ouais, c'est ça, on est dans le.
Et on les avait battus.
On les avait battus, je dis, je crois, au bout de 5 matchs, 5 ou 6 matchs.
Donc. Ouais, c'était pas mal de la part d'Angers. En tout cas, les matchs qui sont prévus, c'est à Angers, à l'Ice Park, pour ceux qui voudraient y aller. C'est à 18h30 samedi. Et puis ce sera à 16h30 le lendemain, le dimanche. Donc voilà, ceux qui se veulent y aller, prenez vos places. J'ai envie de vous dire s'il y en a encore. Mais voilà, ce sera une sacrée épopée pour les Angevins. Mais c'est vrai que le favori pour le titre, ça reste quand même Grenoble, on peut le dire.
Ouais. Après, si Rouen passe, ils ont quand même une petite équipe solide cette année.
Ok.
Donc pourquoi pas les titiller Grenoble.
Ouais, sur la confrontation la finale, c'est ça.
Ouais.
Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire sur l'éduc. On va passer maintenant à la pause musicale et on va tout de suite s'écouter Damso et son titre Cœur de Pirate et on se retrouve juste après.
Toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, je suis venu récolter toute la main. Sombre body, je veux perdre ça de toute la main. Je garde le pire, toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je vais faire du sale toute la night. Yeah. Sombre négro dans le texte, on fait du salvé. L'inspecteur est ravi, police en bas chez lui. Mais son cache à l'abri, car c'est qu'il va prendre longue vie. Car très sombre délit, you vois comme Machiavelli. Comme la mort n'a que ennemi. Ses potes ont long Kenny. Depuis, vit dans le déni, se prend dans le cellule comme pas permis. Ne pense qu'à make money. Au jour de sa sortie, orgie, drogue et morphine. Comme la main n'a qu'une seule vie. J'ai cœur de pirate toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. J'ai cœur de pirate toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. Du sale à toute la noche, moi je connais déjà la fin. Police dans Talkie Walk qui ont déjà sorti le machin. Deux roues, regard hostile, ville rouge, cadré, profil. J'ai toujours Glock, j'ai char, arme de feu et de poing. Avenir sans lendemain, je sais que je pédale à tout moment. La crosse sur les deux mains, je vise le pouls plein d'oscillations. Globuleur, revolver, mais je tire sur les passants. Plus violent dans mes actions, mauvais garçon, agitation. La drogue fait effet. Je plane, je suis à Toulon, mais la playa face aux genoux, j'abrite tellement de pêche. Une racaille comme un pas de le cœur un peu rocailleux, tu fais semblant de m'aimer. Confonds pas insensible avec souffert en silence. Bien sûr que je suis émotif, l'intérieur érosif. Mais ma douleur est taiseuse, patiente, pleine d'endurance, obèse. J'ai cœur de pirate toujours sur le chantier.
De retour sur Radio G dans l'émission Génération Sport. On est toujours ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive. On a quelqu'un qui nous a rejoint entre-temps, c'est Max. Max, est-ce que tu nous entends et est-ce que tout marche bien?
Allô,
oui. Ben, tu m'entends?
Moi, je t'entends.
Très bien, moi je t'entends aussi, c'est parfait. Et les auditeurs t'entendent. Et ben, ravi déjà que tu puisses revenir dans Génération Sport. Ça fait quoi de revenir sur ton émission de sport préférée?
Ah bah évidemment, c'est un très très grand moment d'émotion, mais un vrai plaisir. C'est vrai que On aurait dû faire ça plus tôt, j'y pense que maintenant, mais voilà, mieux vaut tard que jamais.
Exactement. La semaine dernière, donc, tu nous avais fait ce petit reportage pour nous, pour ce match entre Basketland et l'UFAB. T'avais pas pu, parce que aussi on voulait t'appeler la semaine dernière, mais t'avais pas pu nous parler de ce match peut-être plus en détail. Justement, bah voilà, comment ça s'est comment ça s'est passé un peu le match, comment t'as vécu le match, en sachant que j'ai un peu l'impression que t'es tombé amoureux de cette salle Mitterrand et que t'es tombé un peu amoureux du club et de l'ambiance qu'il y avait à Mont-de-Marsan.
Ouais, pour le coup, c'est vrai que l'ambiance elle est assez folle. J'ai fait quelques salles et quelques stades de foot et de tout sport en général, et j'en ai pas fait beaucoup, mais du peu que j'en ai fait, c'est la meilleure ambiance que j'ai trouvée jusqu'à aujourd'hui. C'est une autre dimension.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a 2-3 000 personnes, mais il y a pas un seul supporter qui ne crie pas, qui ne claque pas dans les mains, qui ne chante pas. Vraiment, c'est hyper impressionnant. Donc l'ambiance de la salle est magnifique et c'était un peu plus beau que le match qu'on a vu face à l'UFAB.
Ouais, justement, du coup, comment t'as senti ce match? Est-ce que t'as senti rapidement que le public s'est pas calmé, mais tu vois ce que je veux dire, qu'ils étaient un peu énervés peut-être?
Oui, énervé, oui, c'est le mot, parce que vraiment c'était une incompréhension en tribune. Vraiment, on voyait les joueurs de Basketland, comme je disais, vraiment ça se jetait les ballons dans les mollets. Il y avait des passes qui étaient complètement ratées, des joueuses qui n'avaient pas envie de sauter pour avoir le rebond défensif. Hein. Plein de trucs mis bout à bout qui ont fait que les supporters se sont énervés et ils ont eu raison parce que Basketland a vraiment perdu le match par leur faute. Il y avait vraiment moyen de battre l'UFAB. Oui. Et malheureusement, elles ont fait capoter le match.
Ouais, clairement. Mais en tout cas, sur ce match, c'est vrai que ça a été hyper intéressant pour nous d'avoir ce petit reportage avec l'ambiance. Et c'est vrai qu'on en avait dit, mais Nabala Fofana qui nous avait dit qu'effectivement là-bas c'est une vraie ambiance et c'est quelque chose. Et je pense qu'aussi c'est très fort aussi de remporter un match là-bas. À Angers, t'as vu une joueuse qui a fait un gros match en particulier qui t'a impressionné?
À chaque fois que je vois l'UFAB, Peterson m'éblouit parce que c'est une joueuse qui a, sans manquer de respect à l'UFAB, a une autre dimension que l'UFAB. On l'a vu, elle est dans le majeur de l'FB la saison dernière, il me semble. Elle sort encore un très gros match. Et Jasmine Bailey aussi qui fait un énorme match, il me semble qu'elle est MVP de la rencontre.
Ouais.
Et voilà, c'est les deux qui à chaque fois... m'éblouissent vraiment, et encore une fois les deux ont sorti un énorme match, et sans elles je suis pas persuadé que l'UFAB parte de Mitterrand avec la victoire.
Ouais, et justement tu parlais de Mitterrand, d'un point de vue personnel, donc toi pour rappel tu bosses à France Bleu Gascogne, donc tu bosses à Mont-de-Marsan dans c'est les Landes, c'est ça le département?
C'est ça, c'est les Landes.
C'est ça. Comment ça se passe? Est-ce que tu préfères bosser à Radio G ou à France Bleu? Dis les choses, Max. Dis les termes, on t'écoute.
Alors, les choses vont être dites, bien sûr. Non, mais honnêtement...
C'est autre chose, quoi.
C'est du boulot de journalisme, donc forcément que c'est très différent de ce que je faisais à Radio G, mais ça me manque de ne pas parler de sport à jour 24.
Bien sûr.
Ça me manque, c'est bien de faire autre chose, mais c'est vrai que ça me manque. Mais donc la différence n'est pas... Il n'y a pas de comparaison à avoir.
Oui, bien sûr, en termes de travail. Et justement, en termes de sport, parce que c'est vrai qu'à Angers, on a la chance d'avoir pas mal de grosses équipes en France. Enfin, je veux dire, pour notre échelle. À Mont-de-Marsan, bon, il y a effectivement Basketland, il y a le fameux stade Montois.
Il y a l'Ovalie.
C'est ça, le rugby, Cédric. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres sports, d'autres intérêts? Est-ce que c'est une vie sportive?
C'est pas tant une vie, enfin, si tu veux, il y a du sport, mais ça va être du surf sur la côte, quoi. Donc,
oui.
En soi, c'est une ville sportive, mais c'est vrai qu'en termes de sport classique, oui. Donc, t'as cité le Stade Montois qui est en Pro D2, qui est pas en Top 14, qui d'ailleurs est passé de deuxième à quatrième du championnat.
Ah ouais.
T'as Dax aussi qui se trouve pas loin, qui est dans le département, l'US Dax en rugby, qui sont leaders mais de national.
Ouais.
Puis niveau foot, c'est vraiment désert. Hein. Le stade Montois Foot, ouais. Il me semble que c'est National 3.
Ah ouais, ouais.
Voilà. Donc ouais, c'est compliqué. Après, Anglette, dans le département, Anglette n'est pas dans le département, mais Anglette du coup est en. Alors je sais plus s'ils sont encore en Ligue Magnus, mais peut-être que si.
Ah oui, je crois oui. Anglais, oui, c'est vrai. Anglais ou Anglette?
Bah ici on dit Anglette.
Ouais. J'ai l'impression que chez vous on prononce beaucoup les lettres muettes. Par exemple Marine Fautoux. Ici on dit plutôt Fautou et puis chez vous on dit Fautoux.
Voilà, bah faut réapprendre à parler tout simplement.
C'est, hein. Ça. C'est ça, c'est tout un autre langage, un accent.
Qui a fini dixième de la Ligue Magnus.
Oui c'est ça, donc toujours en Ligue Magnus. Bon bah sinon tu vas rester avec nous pour parler un peu de sport. On va d'abord revenir sur les résultats de la Ligue 1 cette 28e journée avec vendredi ce match entre Lyon et Nantes, un partout entre les deux équipes. Ensuite samedi c'était Lille qui est venu s'imposer du côté du Stadium de Toulouse 2-0. Ensuite on l'a dit, Lens a balayé Angers 3-0. Monaco dimanche après-midi a battu Ajaccio 2-0. Match nul intéressant entre Nice et Lorient, un partout. Gros match nul entre Troyes et Brest, deux partout. Et puis les victoires de Strasbourg et Montpellier respectivement contre Auxerre et Clermont, chacun sur le score de 2-0. Et puis le petit événement de la semaine, c'est cette défaite 2-0 du PSG contre Rennes au Parc des Princes. Première défaite de la saison pour le PSG au Parc des Princes. Voilà, donc peut-être qu'on reviendra un peu sur ce match. En tout cas, Marseille qui s'est imposé aussi 2-1 contre Reims. Un beau succès puisque les Rémois n'avaient pas perdu depuis 19 matchs. Le PSG, messieurs, encore une défaite. Est-ce que c'est toujours la crise Cédric, qu'est-ce que t'en penses?
Je sais pas si c'est réellement la crise. C'est... Fallait bien que ça arrive à un moment, de toute façon, dans la saison.
Ouais.
Donc, on sait qu'ils sont pas, cette année, c'est pas une saison où ils vont être invincibles. Donc, voilà, c'est pas surprenant de Rennes, non plus. Rennes propose beaucoup de choses intéressantes depuis un moment.
Ouais.
Statistiquement, je sais pas ce que ça a donné l'année dernière, mais je me demande s'il y avait pas eu match nul ou... Enfin, c'est souvent que Rennes a tendance à accrocher.
Rennes a gagné le match aller, surtout.
Voilà.
Bon, au Roazhon Park.
C'est pas surprenant. Enfin, c'est, ouais. On voit que Rennes essaye bien de s'accrocher pour retourner en Europe aussi. Enfin.
Ouais.
Enfin, les buts, y a rien à dire. Ils sont beaux, en plus. Ah, ouais. Enfin.
Un peu de laxisme, quand même, dans la défense parisienne.
Mais... Ouais. Mais pour moi, ça, enfin, c'est, je sais même plus, au final, si c'est la défense ou si c'est le gardien qui est surcoté.
Ouais.
C'est un peu hallucinant, quoi. Ouais. À ce niveau-là.
Toi, Max, nous, on avait déjà parlé de l'élimination du PSG en Ligue des Champions la semaine dernière. Toi, qu'est-ce que tu penses actuellement de la tournure que prend la saison du PSG sur ce mois de mars?
Bah, c'est une saison très bizarre en vrai du PSG, mais après voilà, ils font un match contre Rennes, Cédric en a parlé, défensivement c'était pas bon, et après ils sont aussi tombés sur une très bonne équipe rennaise avec Mandanda qui a fait un très bon match.
Ouais.
Mais franchement je sais pas quoi penser de cette équipe. Alors je pense qu'ils gagneront quand même le championnat parce qu'ils sont au moins à 7 points de Marseille qui est deuxième. Mais je pense que c'est la seule et unique saison de Galtier en tant qu'entraîneur du PSG. Moi qui croyais en lui, on en avait parlé tous les deux, Alex n'était pas du tout d'accord, mais moi je pensais qu'il allait réussir. Et finalement, bah ça a pas l'air.
Ouais, ouais.
Donc je pense qu'ils gagneront quand même le titre, mais pas avec la manière, et ça peut être très compliqué pour eux d'ici la fin de saison.
Ouais, la fin de saison va être un peu sans enjeu pour le Paris Saint-Germain. On va maintenant passer à l'équipe de France avec donc ce rassemblement qui a lieu pendant quelques jours à Clairefontaine. Alors pour information, donc les Bleus joueront vendredi contre les Pays-Bas au Stade de France, puis lundi en Irlande. Pourquoi? Évidemment pour les éliminatoires à l'Euro 2024, c'est ça. Donc voilà, ça va être des matchs assez intéressants puisque c'est évidemment les premiers matchs quelques mois après cette finale de Coupe du Monde perdue contre l'Argentine. Et puis surtout, c'est une page qui se donne avec beaucoup, beaucoup de retraites internationales, notamment donc Lloris, Mandanda, Varane, Benzema. Donc voilà, il y a pas mal de changements sur cette équipe de France. On va en parler, notamment sur au niveau des arrivées. Forcément, s'il y a des gens qui partent, il y a des gens qui reviennent ou qui viennent surtout. Avec donc dans les buts, Brice Samba qui est arrivé en tant que numéro 3. On parlait de d'Alban Lafont, Dylan Meslier. C'est finalement donc le gardien lensois qui a été sélectionné par Didier Deschamps en tant que numéro 3. Et puis en défense centrale, c'était normalement Fofana, Wesley Fofana de Chelsea, qui était censé participer à son premier rassemblement. Et finalement, il a été remplacé par un autre nouveau de l'équipe. C'est Jean-Claire Todibo de Nice. Et puis au milieu de terrain, c'est Kefren Thuram, frère de Marcus et fils de Lilian, qui a donc rejoint les Bleus. Messieurs, sur cette liste qu'on a pris donc jeudi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais peut-être donner la parole à Faustin qui n'a pas encore trop parlé sur le foot. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette liste?
Bah, en soi, pas tellement de surprises. À part quelques arrivées, moi je trouve surprenant que Lafont soit pas sélectionné, ouais. Parce qu'il en avait fait quand même avant, il en a fait une ou deux, je crois, des sélections. Et même en deux, c'est qui là le gardien 2?
C'est Areola, ouais. Alphonse Areola qui est remplaçant West Ham.
Ouais, ça, même en deux, Lafont, pardon, il pourrait passer, je trouve.
Ouais,
c'est vraiment surprenant qu'il le prenne pas en trois. Après, c'était Meslier, lui, il est appelé par les espoirs encore.
Ouais, donc, toujours c'est pour ça que éligible.
C'est que Deschamps il l'a pas pris, mais sinon dans le reste tout paraît assez cohérent. Il y a pas tellement de grosses surprises, il y a rien qui fait peur, voilà. Ouais. À part peut-être Kamavinga en défense aussi, ça
oui.
peut être intéressant,
ça peut être
à voir.
Flippant. C'est bah, intéressant ou flippant, c'est soit l'un soit.
Il avait fait des matchs avec le Real où il avait remplacé Mendy, il a vraiment été très bon.
Ouais.
Mais le match qu'il avait fait avec l'équipe de France, c'était contre la Turquie, je crois.
Un coup du monde.
Ouais, un coup du monde.
Ah non, c'est l'Argentine, c'est la finale.
Il avait joué des
Ah non, la Tunisie aussi, ouais.
Ouais, la Tunisie.
Il y a la
voilà
Tunisie
ça.
Et puis il a joué un point final, oui, c'est vrai.
Ouais, c'est là où il avait pas été très convaincant en équipe de France.
Ouais, mais limite meilleur mais en finale que sur ce match face à la Tunisie,
voilà.
Ouais.
Donc faut voir ce que ça donne, mais franchement, j'y crois.
OK, ça marche. Cédric, un petit mot, pas de surprise.
Voilà. Tu connais les surprises avec Deschamps? Ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'a pas de surprises.
Ouais.
Là après bon c'est différent, après Coupe du Monde, voilà, les qualifications qui sont arrivées super vite. D'habitude t'as un peu plus de temps aussi peut-être pour retrouver des joueurs, pour reconstruire ton équipe. Là c'est on est encore dans pleine saison, donc ça a l'air d'être en tout cas une liste qui tient la route pour une fois. Il y a rien de choquant comparé à d'autres listes qu'il a pu nous faire.
Ouais.
Il a mis un peu de jeunesse, c'est ce qu'on lui demande aussi.
Oui.
Parce qu'on a vu ce que ça fait, hein, quand t'as au moins 3 ou 4 cadres qui partent,
faut les remplacer.
Faut les remplacer. Bon, le poste de gardien, c'est celui qui a été le plus touché, mais au final, ça avait déjà bien été anticipé, s'il n'y avait pas eu la blessure, donc. Non, ouais. Après, le choix du poste de 2 ou 3, vous voyez, là, c'est un peu étonnant.
Ouais.
Et soi-disant partisan de que le joueur doit jouer dans son équipe pour être sélectionné, ça a toujours été son discours.
Si en tout cas c'est dans les joueurs de champ.
Voilà, là on voit pour enfin il met un gardien qui a un manque de temps de jeu, qui a fait quelques bons matchs en équipe de France, mais sans plus, je dirais.
Ouais.
Alors après est-ce qu'il le prend parce qu'il y a du coup un peu plus d'expérience et c'est pour ça qu'il le met en deux.
Ouais,
pour former le 3, voilà, je sais pas,
c'est ça.
Faut voir, de toute façon, c'est, voilà,
ça n'a pas
sauf blessure, de toute façon, Meignan est là pour,
c'est ça.
À mon petit moment.
Toi, Max, qu'est-ce que t'en penses de cette liste?
Pas trop de surprise, après, moi, cette liste, elle me fait quand même un peu peur parce qu'il y a que des jeunes. À la fois c'est assez excitant parce que du coup il y a un énorme renouveau en équipe de France et c'est ce qu'on attend depuis des années, et à la fois on se demande qui sont les cadres de cette équipe, parce que vraiment l'expérience n'est pas là. Et après, sinon, au niveau des choix, Khéphren Thuram est un excellent joueur de Ligue 1 et il méritait d'être appelé en équipe de France. Todibo, moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi ce joueur est aussi... Je n'aime pas ce joueur, voilà.
Au moins, c'est clair.
Mais force est de constater que dernièrement, il fait des très grosses prestations avec Nice.
Ouais.
Et Brice Samba, bah voilà, comme a dit, comme on parlait Postin, c'était soit Samba, soit Lafond. Bon bah là pour le coup c'est Samba, c'est pas impossible que Lafond soit appelé une prochaine fois à la place de Brice Samba.
Ouais, c'est Samba qui est plus vieux que Lafond.
Et je pense que Cédric a raison, Areola est uniquement dans le groupe parce qu'il a un peu plus d'expérience que les deux autres, parce que sinon si Areola avait que très peu de cap en équipe de France, je pense qu'il n'aurait jamais été appelé dans ce groupe.
Ouais. Pour se projeter un peu sur les matchs de l'équipe de France, on est dans le groupe donc des Pays-Bas, je l'ai dit, de l'Irlande, et on a également la Grèce et Gibraltar à affronter. Sur ces matchs-là, voilà, c'est pas des grosses affiches à part peut-être les matchs contre les Pays-Bas. Honnêtement, c'est vrai que la prolongation de Deschamps fait qu'il y aura pas forcément de nouveau dans le jeu, que ce sera toujours un petit peu compliqué parfois. Est-ce que ce sont des matchs qui vont vous intéresser, monsieur? Parce que je me pose la question, est-ce que c'est des rencontres que vous avez envie de voir? Voilà, même s'il y a forcément évidemment des joueurs intéressants à voir jouer, mais avec le même style de jeu, avec des adversaires qui seront déjà très abordables pour l'Euro, pour la qualif en Euro, est-ce que ce sont des rencontres qui vont vous intéresser?
Voir l'équipe de France jouer, c'est toujours agréable à voir. En plus, mais c'est vrai que mis à part voir les nouveaux joueurs, bon, les matchs, ils sont, j'ai pas envie de dire joués d'avance, mais bon, est censé largement les dominer, même si
en tout cas les trois, Irlande, Grèce et Gibraltar, quoi.
Ouais, c'est ça. Même si on a déjà vu la France faire n'importe quoi contre des clubs comme ça, surtout là avec des joueurs qui ont peu d'expérience, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais ce sera pas le rassemblement le plus intéressant de l'année, c'est clair. Mais c'est toujours intéressant de voir des matchs de l'équipe de France, je trouve.
Ouais. Toi, Cédric, t'en penses quoi?
On peut déjà enterrer Gibraltar, je pense.
Oui, bah oui.
Ça, c'est, enfin, il n'y a pas de raison que les quatre autres, pareil, ne fassent pas une victoire, enfin deux victoires, même parce que c'est en match de retour. Après, la Grèce, je sais pas. On sait qu'ils sont capables de choses comme ça par période. Ils ont quand même été chercher une.
Ils sont pas dans une même période quand même en ce moment, mais.
Ouais, mais regarde l'année où ils vont chercher le titre de champion d'Europe, ils étaient pas non plus dans les favoris.
Ouais.
Ils ont réussi.
Ça reste une autre époque quand même.
Ouais, mais bon. Tu sais, il suffit un moment, un déclic.
Ouais.
Mais après, l'avantage, j'ai envie de dire, c'est qu'on va pouvoir trouver un peu plus, très vite le niveau de l'équipe de France.
Oui.
Les Pays-Bas, logiquement, ça va être compliqué,
ça
va être intéressant. L'Irlande, historiquement, il y a toujours eu des matchs assez serrés. Mais bon, je pense qu'ils ont toujours pas digéré la main aussi.
Hein. Mais bon.
Donc, au final, c'est peut-être bien qu'on joue ces deux nations-là d'entrée de jeu, comme ça, au moins,
on aura une idée.
Ça va pouvoir faire une idée, ouais. Puis surtout bien les enchaîner, en fait.
C'est ça, directement. Toi, Max, qu'est-ce que t'en penses, l'équipe de France? Est-ce qu'elle te hype encore un peu ou pas du tout?
Bah, du coup, comme je disais, oui, ça va m'intéresser parce que du coup, ça va être un renouveau complet. Donc, ouais, forcément, ça va m'intéresser. Surtout, le premier match, c'est contre les Pays-Bas. Donc, ça va normalement nous offrir. Ça va être un match entre deux bonnes équipes. Donc, normalement, ça devrait nous offrir un beau match. Je pense pas que si ça avait été Gibraltar-France, premier match.
Oui.
Il aurait regardé absolument, mais là oui, ce match va m'intéresser. C'est plutôt clair. Et ouais, en fait, j'ai juste hâte de voir ce que cette équipe de France peut donner. J'ai aussi hâte de voir comment Deschamps peut se réinventer avec d'autres joueurs.
Ouais.
Parce que moi, c'est aussi une de mes interrogations. En fait, j'aurais aimé que le renouveau se fasse aussi sur le banc. Voilà, j'aurais bien aimé que Deschamps laisse sa place à un nouveau sélectionneur. Mmh. Donc voilà, et c'est aussi un moment hyper important pour lui, un moment crucial. On va voir comment il peut justement se réinventer avec une autre équipe, avec d'autres cadres. Donc voilà, ça peut être, c'est un moment assez, à la fois comme j'ai dit, qui fait peur, mais à la fois qui excite parce que du coup, on ne sait pas du tout de quoi cette équipe de France peut être capable.
Très bien. Et justement, on va renchaîner sur l'équipe de France avec justement cette annonce officielle, en tout cas aujourd'hui, même si ça a un peu fuité dans les jours précédents. Forcément, qui dit retraite de Lloris dit il faut trouver un nouveau capitaine et un nouveau vice-capitaine. Et c'est donc Mbappé qui a été donc entre guillemets élu capitaine, en tout cas avec une seule voix, c'est celle de Didier Deschamps évidemment. Donc Mbappé capitaine, pour rappel, donc il a seulement 24 ans. Forcément, c'est quelque chose qui a fait pas mal parler. Il faut savoir que Deschamps, dans sa conférence de presse de jeudi, avait annoncé ne pas avoir fait encore de choix et qu'il a donc officialisé cette décision aujourd'hui, même si l'info a fuité donc hier. Sur le choix de Mbappé, messieurs, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous aurez vu quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un choix normal? Qu'est-ce que vous en pensez, Faustin?
Bah moi j'aurais bien vu Griezmann quand même plus que Mbappé à mon avis.
Ouais.
Parce que vu de ce qu'il donne pour l'équipe de France depuis des années, et puis Mbappé, enfin je pense que c'est même sûr, Griezmann prendra sa retraite internationale bien avant Mbappé.
Ouais.
Donc Mbappé a le temps
d'être capitaine,
de devenir capitaine. C'est, je pense que après Griezmann, ça aurait été lui à l'unanimité. Même il y aurait eu zéro débat avec qui ça aurait pu être.
Ouais.
Là, c'est peut-être un peu tôt, même si on a vu que pendant la Coupe du Monde, il peut prendre les devants. J'ai l'impression qu'il arrive à parler aux joueurs un peu, à les pousser. Mais Griezmann, au vu de ses performances aussi pendant la Coupe du Monde, qui a fait une excellente Coupe du Monde, il aurait mérité tout autant.
Ouais, c'est vrai que. Team Griezmann ou Team Mbappé?
Aucun des deux, parce que en fait ça aurait été l'un ou l'autre. De toute façon, il y aurait eu forcément un déçu.
Ouais.
Mais en soi, c'est pas illogique.
Ouais.
On a vu que les deux, ils ont quand même, comme tu disais, le côté, on sait conduire une équipe, s'il faut gérer les gens et tout ça, ok. Après, va falloir pas non plus être directement sur le dos de Mbappé si ça se passe mal.
Ah bah oui, évidemment.
Parce que bon, on voit pareil à Paris, commence aussi à avoir le capitana, un peu plus.
Oui, un peu plus.
Non, c'est pas surprenant de la part de Deschamps. Je pense que de toute façon, ça devait être déjà fait largement en amont.
Ouais.
Après, ce qui a l'air d'être un peu dommage, c'est que suite à ça, quand même, Griezmann qui se pose la question s'il continue ou pas, quoi.
Justement, je voulais.
Et ça pourrait arriver très vite, en fait. Un départ. Donc, c'est pareil. Est-ce que c'est pas encore un dossier que le staff de l'équipe de France a mal géré ou pas?
Ouais. Justement, je voulais parler de ça. C'est une rumeur sortie notamment par le Figaro. C'est donc sur le fait que Griezmann aurait mal pris cette décision et envisagerait d'une retraite internationale. L'équipe a également sorti l'info, plus dans le côté où il l'aurait mal pris. En tout cas, alors pas forcément sur la retraite internationale. Donc c'est peut-être aussi un dossier sur lequel Deschamps va essayer d'être diplomate, en tout cas. Toi, Max, tu t'aurais vu plus qui? Mbappé, Griezmann, un autre, peut-être?
Déjà, je suis pas surpris. Je suis pas. Voilà, c'était soit Griezmann, soit Mbappé, je pense. J'aurais dit comme Faustin, j'aurais tendance à préférer un Griezmann en tant que capitaine plutôt qu'un Mbappé, que moi, que je vois pas forcément avec un énorme leadership. Mais après, on va pas se mentir que c'est pas qu'une décision sportive. Il y a aussi cet objectif de faire passer Mbappé pour qu'il devienne une énorme superstar plus qu'il ne l'est déjà, que porter le capitaine, le brassard, pardon, en équipe, en sélection nationale, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. À 24 ans, comme tu l'as dit, ça l'est encore plus. Donc voilà, l'objectif, c'est qu'il marque l'histoire, et je pense que Deschamps et le staff en est conscient. Donc pour marquer l'histoire, faut que ce soit notre numéro 10, faut que ce soit notre capitaine, comme Zidane l'a été fut une époque. Donc je suis pas déçu, je suis pas étonné, mais j'aurais préféré un Griezmann. Et surtout, j'aurais préféré qu'un joueur comme Pogba, par exemple, ne soit pas blessé, parce que je pense que si Pogba n'avait pas été blessé, il aurait récupéré le brassard. J'ai tendance à penser ça.
Ouais, c'est vrai que c'était un vrai leader, notamment en 2018. Justement, le fait que Griezmann soit menace un petit peu la retraite, ce serait un vrai coup dur en plus de tous les autres coups durs pour l'équipe de France.
Ah bah, et quel coup dur perdre ton maître, ton chef d'orchestre depuis des années, juste pour une histoire de bête, de brassard ou non, ce serait vraiment dramatique. Alors oui, la presse a sorti ça. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas. Mais si ça s'avère être vrai et si Griezmann prend sa retraite internationale dans les prochains jours, c'est une hécatombe côté français, et là le poste de Deschamps serait la tête de Deschamps serait plus que je cherche mes mots, mais bref,
Deschamps que menacé, quoi.
Après il va falloir voir comme Mbappé, et c'est pas forcément gros adepte des conférences de presse.
Ouais, Mbappé,
généralement conférence de
ça
presse
va être plus intéressant, du coup, peut-être
dit capitaine. Généralement la première c'est toujours l'entraîneur.
Le capitaine. Ça, c'est plus en veille de match.
Il n'y a aucune obligation, mais tu regardes dans beaucoup de sélections, c'est ça, quoi.
Et ben justement, Lloris, qui était justement un peu trop lisse, notamment sur ces conférences de presse-là, et qui va donc passer la main à Mbappé, ce sera intéressant de voir ce que Kylian Mbappé a à faire. En tout cas, voilà pour l'équipe de France masculine de football qui va donc jouer, on vous le rappelle, vendredi au Stade de France contre les Pays-Bas et lundi du côté de Dublin en Irlande. Du côté des féminines, Hervé Renard est pressenti pour donc succéder à Corinne Diacre, qui, on le rappelle, a été démise de ses fonctions il y a quelques semaines. Il faut savoir que donc Hervé Renard avait participé à la Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite. Il avait notamment battu les champions du monde, les futurs champions du monde argentins. Et puis donc voilà, il est en fin de contrat, notamment avec l'Arabie Saoudite, dans quelques jours. À noter que le timing va être assez serré, puisque il est censé annoncer sa liste le 30 mars, dans 9 jours. Et son contrat se termine normalement avec l'Arabie Saoudite le 28 mars. Donc ça va être très très short. En tout cas, voilà, c'est un choix rapidement, c'est un choix logique selon vous, l'expérience.
Je sais pas du tout. Des renards avec des femmes, je vois pas ce que ça peut donner. On sait comment il est quand même assez dur des fois dans ses méthodes, je trouve, avec ses équipes. Il va pouvoir appliquer les mêmes méthodes justement à l'équipe de France.
Ouais.
Au final, ouais, je sais pas. J'ai l'impression que c'est peut-être une solution de secours, parce que voilà, il est très bon quand il y a un feu d'allumé pour l'éteindre, ça c'est sûr. Il l'a prouvé plusieurs fois. Mais après, sur du long terme, je sais pas si c'est réellement l'homme de la situation, quoi.
Ok. Messieurs, non. Pas de réaction.
Bah, moi, je suis assez d'accord avec Cédric, mais ouais, je pense que ça peut quand même le faire. Hein, à mon avis, ça reste. Il a beaucoup d'expérience avec des clubs, des équipes un peu en difficulté, même si la France n'est pas tellement en difficulté non plus.
Ouais.
Mais ça peut le faire comme un peu fou, je pense.
Très bien. On va enchaîner avec le basket. Faustin, justement, tu vas nous parler un petit peu de ce qui s'est passé en Betclic Elite, en Euroleague et en NBA. On commence par quoi ?
J'ai démarré par la Coupe de France.
Ah oui.
Parce que donc les quarts de finale se sont joués samedi à Trélazé, à l'Arena Loire. Donc le premier opposait Bourg-en-Bresse à Strasbourg, et ce sont les Strasbourgeois qui ont décroché les premiers leur place pour la demi. C'était ensuite au tour du Mans et de Dijon de s'opposer. Ce sont bien les Manceaux qui se sont qualifiés. Le troisième match opposait les leaders du championnat Monaco aux tenants du titre Pau, et c'est sans grande difficulté que les Monégasques s'en sont sortis. Pour clôturer cette première journée, l'ASVEL affrontait Cholet, et comme j'ai dit donc plus tôt, ce sont les Lyonnais qui s'en sont sortis vainqueurs. Le dimanche avaient lieu les deux demi-finales, et j'étais présent à l'Arena Loire pour assister à ces deux matchs. J'étais en plus assez bien placé, juste derrière le panier.
Parfait.
Donc j'ai pu assister dans les meilleures conditions au match. Le premier match opposait donc Monaco au Mans, un match rythmé par les nombreuses fautes, mais les deux équipes ont su rester au coude à coude, bien aidées par les 34 points et le buzzer de son propre camp de Matt Morgan pour le Mans, qui arrivait même à mener le match. Mais c'est bien Monaco qui réussit à prendre le match au terme d'un très bon dernier quart-temps. Monaco prend donc son ticket pour aller en finale à Bercy le mois prochain. Le dernier match de ce week-end opposait donc l'ASVEL contre Strasbourg et on a eu très peur au début de voir un gros blowout de la part des Lyonnais qui menaient déjà de 13 points dans le premier quart-temps. Mais les Strasbourgeois ont su réagir et même repasser dessus à la mi-temps de seulement un petit point. Mais sous les yeux du président du club Tony Parker qui avait fait le déplacement jusqu'à Trélazé et qui est d'ailleurs allé dans le vestiaire de ses joueurs à la mi-temps sûrement pour leur donner un bon gros coup de pression. Les Lyonnais étaient donc obligés de réagir et d'accélérer la cadence, ce qu'ils ont fait en dominant toute la deuxième mi-temps, s'imposant ainsi 85 à 69, rejoignant Monaco en finale.
Et donc tu étais à quelques mètres de Tony Parker.
Ouais, je l'ai vu passer en premier tout le public ne l'a pas vu passer. J'étais juste à côté de l'entrée des VIP. Donc,
incroyable. Ouais. Incroyable.
J'ai pas pu faire ma photo avec.
Dommage.
Personne n'a pu en faire, je crois.
Et t'as pas pu le ramener. Ah là là.
C'est dommage, ouais. Une petite interview, ça aurait été quand même sympa. Bon, la prochaine fois, alors.
Ouais, je lui enverrai un message.
Sinon, en Euroleague, ça a joué?
Ouais, en Euroleague, toujours des résultats assez contrastés avec ceux de Betclic Elite pour l'ASVEL qui subit une énième défaite, cette fois contre Athènes. Contrairement à Monaco qui, eux, enchaînent plutôt bien dans les deux championnats en s'imposant face à Boulogne.
Et en NBA?
En NBA, les playoffs se rapprochent et la course commence à être rude, l'occasion de faire un point sur les enjeux du moment au classement. À l'ouest, la course à la première place est dominée pour l'instant par Denver, qui cependant ça commence à se resserrer avec la montée en force d'une équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau-là au début de la saison, c'est Sacramento. Toujours à l'ouest, on a un milieu de tableau qui a rarement été aussi compact. Pour vous dire, il n'y a que deux victoires d'écart entre le 6e et le 12e, sachant que le 6e est la dernière position directement qualifiée pour les playoffs, et le 10e est la dernière place qualificative pour le play-in, et que donc les équipes d'après n'ont rien d'autre à jouer après la fin de la saison régulière, mis à part la draft. Ça nous annonce donc une fin de saison assez palpitante à l'ouest. Tandis que à l'est, maintenant, deux équipes ont déjà leur place assurée en play-off. Ce sont les Bucks et les Celtics qui vont donc se battre pour la fin de saison pour atterrir à la première place, suivi de près par Philadelphie. Sinon, le reste du classement est bien plus hétérogène et plus grand-chose ne semble pouvoir bouger d'ici la fin de saison, mis à part une lutte pour la 8e place synonyme d'accession directe au second tour du play-in, opposant Toronto, à Atlanta, qui sont actuellement à égalité au classement.
Bien, merci pour ce petit point basket avec donc ce qui s'est passé en Coupe de France, en Euroleague et en NBA. À noter que Cholet joue ce soir donc en Betclic Elite contre Gravelines Dunkerque et actuellement dans le deuxième quart-temps, les Choletais sont menés de 20 points, 46 à 26. Et puis on reste sur le direct avec les Ducs d'Angers qui perdent actuellement 2-0 maintenant avec donc cette demi-finale contre Rouen, ce match 1. Les buteurs sont François Beauchemin et Loïc Lamperrier pour les Rouennais.
Le deuxième tiers-temps a commencé du coup.
Ouais, c'est ça. Il vient de commencer. Au niveau du rugby, c'était donc la fin du tournoi Destination ce week-end. Les Français qui pouvaient encore peut-être espérer remporter le tournoi, mais en tout cas, ils avaient fait le job en début d'après-midi avec ce beau succès 41-28 contre le Pays de Galles avec le bonus offensif. On espérait donc une victoire anglaise en terre irlandaise et finalement, c'est bien l'Irlande qui l'a emporté et qui a décroché le grand chelem dans ce tournoi des six nations. Et puis
petit relâchement quand même de l'équipe de France en fin de match qui se prend un essai qui est gentiment offert.
Ouais, qui est un petit peu...
Et du coup qui prive du bonus défensif.
Voilà, les Gallois... Attends. Ils ont le bonus défensif.
ils ont eu le bonus offensive.
Oui, c'est ça, offensif, oui. Mais tu peux pas avoir de bonus.
Si, il me semble que tu peux cumuler les deux.
Ah bon?
Il me semble, après...
Je crois que c'est... Ok. Bon, à voir. En tout cas, on va maintenant parler un petit peu de Formule 1 avec ce Grand Prix qui avait lieu en Arabie Saoudite du côté de Jeddah. La victoire de Sergio Pérez avec son coéquipier en écurie, Max Verstappen, qui le suit juste derrière à la seconde position. Et puis Fernando Alonso qui fait cette troisième place. C'est le même podium que il y a deux semaines, Cédric. En inversement, Pérez et Verstappen, mais en tout cas, c'est les mêmes trois bonhommes sur la boîte.
Ouais. Mais encore avec un scénario digne que seule la FIA peut nous faire.
Exactement.
Alonso, un temps déclassé, puis reclassé, puis à nouveau déclassé, et finalement bien requalifié sur sa troisième place pour son centième podium
en carrière. Ouais. Ouais. Grand Prix, rien à dire dessus.
Je l'ai vu par petits morceaux, mais après, c'est les premiers Grands Prix. Enfin, il y a qu'on enlève ces histoires de quotas de matériaux. Là, quand on voit que voilà, pour le deuxième Grand Prix, Charles Leclerc qui se prend 10 places de pénalité parce qu'il a changé deux fois au premier Grand Prix une pièce et il y avait victime à nouveau sur le troisième. Ouais. Donc on sanctionne. C'est un peu lourd, je trouve. Enfin, ouais. Limite, ça peut tuer déjà l'intérêt de la saison, presque.
Ok, ça marche sur cette Formule 1. On va terminer à parler un peu tennis. J'aurais aimé en parler plus longtemps, mais il nous reste 5 petites minutes. Carlos Alcaraz, l'espagnol, le jeune espagnol, a remporté le Masters 1000 d'Indian Wells, dimanche, en finale contre le russe Daniil Medvedev. Il devient, par la même occasion, numéro 1 mondial. Et petite anecdote, Rafael Nadal sort du top 10 ATP pour la première fois depuis près de 18 ans. Ça veut dire que, comme je le disais en off, Faustin n'a jamais connu de son vivant Nadal hors du top 10. C'est quand même une stat impressionnante. Et puis surtout, voilà, on peut se projeter sur Roland Garros. Carlos Alcaraz qui est quand même un bon joueur de terre battue, qui est en vraie forme, et Nadal derrière qui se fait vieux, pas mal de blessures, et il vient de sortir du top 10. On se demande alors qui sera vraiment le favori pour Roland Garros. Je me tourne entre guillemets vers Max. Qu'est-ce que toi t'en penses, pour toi qui sera le vrai favori pour Roland Garros?
C'est vrai qu'à chaque année, on dit que Nadal n'est pas en forme, et chaque année, je te dis la même chose, je te dis que ce sera pour Nadal cette année. Là, malheureusement, ça semble plus compliqué. J'y crois toujours, parce que c'est un mec qui se révèle à chaque fois dès qu'il est sur Paris pour Roland Garros. Donc j'ai envie d'y croire. Après, force est de constater que Alcaraz paraît le gros favori pour Roland Garros.
C'est vrai que toi, t'en penses quoi?
On va attendre déjà Monte Carlo.
Ouais.
Monte Carlo qui est souvent c'est un ATP 1000 je crois de mémoire.
Ouais,
voilà, qui est une bonne mesure en termes de jeu.
Ouais.
Après il y a celui de Madrid aussi. Généralement c'est là-dessus où on peut se faire vraiment une idée.
Il y a Rome aussi.
Voilà, ouais, un peu moins je trouve Rome quand même.
Ouais.
C'est souvent sur ces deux-là où on voit à peu près les joueurs qui vont être là en deuxième voire troisième semaine. Mais avec les blessures qui commencent à bien se cumuler depuis quelques années.
Ouais.
Après, on dit tous les ans, c'est là qu'il y a une petite chose à faire. Mais en tout cas, si les deux se croisent assez tôt, je pense que Nadal pourrait tomber.
Très bien. On vous remercie de nous avoir écoutés dans Génération Sport. Je remercie Max qui était avec nous pendant cette émission. C'était un plaisir de t'avoir. Tu reviens quand tu veux, potentiellement dès la semaine prochaine. Et puis, voilà, en tout cas, bonne chance. Là, t'as commencé la semaine de travail à France Bleu?
Bien sûr.
Ça marche. Du coup, on se retrouve donc.
Voilà.
On se retrouve donc la semaine prochaine avec vous aussi, messieurs. Je compte sur vous pour être là. Et puis, on va se quitter avec le générique. On vous laisse quand même en compagnie sur Radio G de Imaginaire. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine.
le jour où on m'a dit, il va falloir...